Je ne suis pas un paysan, moi. Je suis un gestionnaire. Et pour te la gestionner, je te l'ai gestionné, la nature, pas chez moi.
CO2, mon amour.
Pour les voir, mes 400 têtards. Comme c'est propre. C'est nickel. Il n'y a plus rien. Ah ouais, il y avait les sauterelles, les coccinelles, les escargottes. Ces petites saloperies, là, aujourd'hui, il n'y a plus rien.
Avec Denis Chessou.
Et plus une herbe, plus un animal, rien. Avec le Xerox 3000. Ah, ça te nettoie tout.
Sur France Inter.
Ah, celui-là, évidemment, on l'aime bien, c'était Bénureau. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans CO2 Mon Amour, la nature qui chuchote à vos oreilles. Avec Nicolas Delmas aujourd'hui à la technique, et assisté de Camille Blanas et de Thomas Lehété, c'est Xavier Pestudja qui réalise l'émission. Avec une petite humeur, bien sûr, car jeudi prochain, ce sera pour la 51e fois le jour de la Terre. Ma journée, et même d'ailleurs ma nuit. Normal, moi je vous ai tout donné. L'eau pure, l'oxygène, les lacs, les vallées, les rivières, la chaleur de mes entrailles, la fraîcheur de mes cimes, le bois et l'ombre de mes forêts. Tous les fruits de ma création, je vous ai donné. Les oiseaux, les gorgones, les poissons, les animaux les plus délirants qui dépassent la folie de toutes vos imaginations. Et pour ma fête, que m'offrez-vous? Eh ben, votre soif d'entrepôt, des Amazones pour horizon des zones, des agriculteurs déguisés en cosmonautes qui arrosent les salades et les champs de leur urine du diable, des arbres dont vous parlez comme de mobilier urbain, des poissons qui digèrent le plastique et une cocotte minute à la place du climat. Vous avez bitumé vos rêves et marchandisé tout ce que je vous offrais. Vous vous êtes vautré dans votre propre fumier sans jamais tenir compte des leçons du passé, en méprisant la sagesse, la voix des fils du vent, ces sauvages au regard d'aigle qui savaient porter loin. Alors c'est mon jour, c'est mon tour, jour de la Terre. Bah, je pourrais ricaner devant tout ce gâchis. Et pourtant, bah, je vous aime. Oui, dans vos maladresses, peuple soumis de fourmis apeurées, car vous êtes si nus, si inconscients dans vos rapacités. Ma bise du Nord ou mes virus que vous avez fait sortir du bois vous enrhume. D'un seul coup d'épaule, j'écroule au sol toutes vos termitières. Et j'assiste impuissante, hein, à vos efforts acharnés pour vous corriger, alors que vous êtes intelligent et tenez aujourd'hui tous les outils de votre propre destin. Alors vos enfants oseront-ils enfin passer outre les jalousies, la privatisation des biens communs et querelles illusoires pour vraiment ensemble choisir un cap et le bon? Mais quoi qu'il arrive, je resterai là, belle, verte et bleue, à rouler ma boule dans l'univers, juste, bon, un peu plus encombré de vos déchets, mais ça j'en ai vu d'autres. Tiens, je vais même vous dire, je vous en veux pas. Je vous observe, vous m'amusez à vous agiter sur mon ventre, à danser comme des fous dans vos angoisses. Alors je sais, j'aurai des milliards de likes, I like ma terre chérie et fuck le réchauffement, mais est-ce que je vous veux, moi, pour ami? Bon, allez, oui, car je vous ai laissé entrer sans savoir que vous seriez l'espèce la plus dominatrice et indisciplinée. Je vous aime, d'accord, car vous avez inventé les arts, les sciences, la culture, la médecine, mais filez maintenant avant que je me fâche vraiment, hein. Des fois que je voudrais me secouer à fond, vous savez, comme un chien qui sort de l'eau pour se débarrasser de mes bipèdes qui me grattent la couenne et qui s'essuient leurs pieds, leurs pneus sur moi comme sur un paillasson. Allez vers le haut. Inventez ce qui doit vous sauver, ce sera pour moi le plus beau des cadeaux. Alors, portrait de territoire, d'animaux, rencontres au fil de l'eau, des forêts, des espères, vous le savez, dans CO2 Mon Amour, et aussi mise en avant de collectivités agissantes, car c'est là que résident les vrais leviers d'action. Alors, pour le bien de la nature, nous aurons un atlas de la biodiversité de la ville d'Embrun, mais avant, arrêtons-nous dans le Beaujolais Val-de-Saône.
On déposait un projet auprès de l'Agence de l'eau sur la biodiversité, puisque maintenant l'Agence de l'eau s'est saisie de cette thématique. Et on était 42 communes à l'époque, environ 42 000 habitants. Donc on a dit, bah, on se lance un défi, on fait 42 km de haies et on fait 42 mares. Alors les mares ou des boutasses, ou suivant les régions. Voilà. Et donc c'est parti pour cette aventure. Et on s'est fixé 3 ans pour remplir ce contrat. Et donc on le finit cet hiver.
Alors le rendez-vous a eu lieu au sommet du Mont Brouilly. Nous sommes dans le Rhône, le mont du sieur Brullius, qui était officier de l'armée romaine de profession. C'est un copain de César, hein, qui trouva la région sympathique. Aussi posa-t-il son glaive et ses pieds de vigne, car le Romain voyageait rarement sans ses vignes. De là-haut, 484 mètres, on voit donc le village de Bernard Pivot, on voit les collines portant les vignes sur leur dos, une vue sur les monts du Lyonnais, la Bresse, la Dombe, l'Ain et même le Mont Blanc quand il l'a décidé. Et puis il y a aussi mon ami Franck de Gliani, qui a dans le cœur toute la lumière qu'il ne peut plus voir avec ses yeux, rencontré d'abord comme auditeur, hein, une époque, vous savez, où on envoyait des lettres. C'est absolument incroyable. Et aujourd'hui, donc, il nous fait monter son Mont Bruit à vélo. Et puis il m'a dit, écoute, toi qui connais quand même pas trop mal la France, tu connais pas le marathon de la biodiversité ? Bah non. Alors donc, nous sommes au sommet de cette appellation et j'ai rencontré Frédéric Pronchery, qui est le maire de Belleville en Beaujolais et vice-président de la communauté de communes Beaujolais-Val-de-Saône. Et donc, on vient de l'entendre, mais c'est pas si simple que cela, en fait, de planter des haies et de nouvelles mentalités.
Pour un viticulteur, un agriculteur, c'est l'agriculture en général, c'est quand même du travail. Parce que la haie, une fois qu'elle a pris son ampleur, ben, il faut l'entretenir. Et qui dit entretien, dit des heures à passer, du matériel à acheter. Et donc, ça va pas de soi. Et puis, pour les communes, ça va pas de soi non plus. Parce que c'est la même problématique. Et puis, ce qui est beau dans ce dossier, c'est qu'on a mis ensemble, autour de la table, des gens qui normalement se parlent pas tout le temps, qui même des fois se chamaillent assez fortement. Il y a qu'à suivre les débats à la télé. Par exemple, les chasseurs avec la Ligue de protection des oiseaux ou d'autres associations naturalistes.
Vous avez fait une cartographie d'abord ?
Un énorme travail de cartographie pendant un an, c'est-à-dire repérer toutes les haies existantes, voir les trous, les manques, pour reconstituer les trames vertes. Et puis, comme c'était un appel à projet Agence de l'eau, il fallait qu'il y ait un lien avec l'eau. Ouais. Alors avec l'eau, même un petit rue suffisait, mais il fallait qu'on soit à quelques centaines de mètres d'un point d'eau, de rivière, de rue, de ruisseau, etc.
Il y a une quarantaine d'années, ici sur le Mont Brouilly, il y avait plein de mares. Bon, après, on les a comblées, la viticulture s'est amplifiée, il y a de la terre qui a déboulé merveilleusement, on a refait des retenues ici. Oui, oui. C'est-à-dire qu'on est toujours, avec l'argent public, en train de défaire, de faire, enfin, c'est ça qui est dingue.
Alors, on est surtout en train, tout le temps, depuis, on va dire, un peu plus de 100 ans, ah. L'homme détruit la nature et reconstitue des solutions que la nature, elle avait mis en place. Ah. Alors donc maintenant, bah, on fait des bassins de rétention qui sont pas très beaux, qui ne servent à rien, si on n'y met pas un petit peu d'ingénierie, alors que les mares, elles existaient. Nous, on a une particularité, c'est qu'on démarre à la Saône, notre territoire. Donc, on a les plaines de Saône avec beaucoup d'agriculture, assez intensive. Et puis après, on démarre sur la vigne. Et en fait, on a fait le remembrement. Et alors, c'est encore plus flagrant sur la plaine de Saône, à tout supprimer d'un seul coup. Et puis, c'est vrai que dans la vigne, il n'y a plus une seule mare. Ça n'existe plus. Ah, les haies ont toutes été rasées aussi.
Oui, parce qu'on peut faire éclater 500 mètres de haies en 3 heures.
Hein. Oui, ça va très très vite. Généralement, on ne le voit pas parce que celui qui ratiboise une haie, il le fait généralement très tôt le matin. Et comme il a des bons appareils, ça va très très vite.
Pendant le confinement, ça a beaucoup donné. Hein. Je parle de la France en général. Ouais.
Je crois que sur la France entière, c'est 700 000 km de haies qui ont disparu.
Oui, c'est ça. Bon, alors donc maintenant, on refait, hein, oui. Voilà, faire et défaire, oui. C'est toujours faire quelque chose, comme on dit. La suite, ça va être quoi ? Ça va être combien de kilomètres de haies ?
Alors là, on finit les 42 kilomètres cette année, y compris pour les mares et les haies, et on se relance un futur défi tout de suite après. Il y en a un deuxième qui va prendre le relais très bientôt, c'est le paiement pour service environnemental. Là, cette fois, on continue le marathon. On vient de répondre à un nouvel projet pour refaire un nouveau marathon. Alors, ça sera peut-être un 100 km, je sais pas. J'aimerais bien un jour me lancer dans le 100 km haies. Par contre, là, on va s'adresser directement aux agriculteurs, donc un nouvel outil. On va payer directement l'agriculteur, le viticulteur, pour qu'il fasse ce travail-là. Nous, on subit une urbanisation assez intensive parce qu'on est très près de Lyon. Et donc, on va replanter des arbres fruitiers, par exemple, dans tous les lotissements. Tous les délaisser dans les lotissements, plutôt que de tondre bêtement, on va dire, des espaces, même si ça fait propre encore pour beaucoup de gens, on va planter des arbres fruitiers. Et les arbres fruitiers, ils seront à disposition des personnes. Et plutôt que de mettre des jeux, parce que celui qui a les jeux à côté de chez lui, ça lui apporte des nuisances, et donc il veut plus les jeux, et là, on va occuper le terrain, mais avec des arbres fruitiers. Donc c'est très très important, ces notions, de ramener de la biodiversité. Bien sûr, la vie des sols, c'est primordial en agriculture. Mais en ramenant la biodiversité, on ramène aussi, par exemple, les chauves-souris, parce qu'elles n'ont plus d'endroits pour nicher. Et les chauves-souris, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont manger les insectes. Et au lieu de passer des insecticides, par exemple, pour les vers de la grappe, qui est une vraie problématique actuellement, les chauves-souris devraient faire le travail dans les années qui viennent, si on réussit cette agroforesterie, ou si on réussit à replanter des supports pour que la vie revienne normale. Parce qu'en fait, la vie, elle n'existe plus. Et même nous, dans les villes, quand on tond à 2 cm de hauteur, c'est une hérésie. Alors déjà, c'est affreux parce que c'est tout sec, c'est tout jaune. Personne n'aime voir ça. Alors ça fait propre, mais il n'y a plus de vie.
Si vous êtes familier de ces paysages, vous avez sûrement remarqué les nombreuses haies et bosquets qui se multiplient. La raison, des volontaires de plus en plus nombreux qui veulent restaurer leur territoire en favorisant l'implantation d'arbres.
Là, je suis en train de praliner. C'est un mélange de terre, d'eau et de fumier, de vache. Et on fait ça juste avant de planter pour favoriser en fait, la reprise du végétal dans la terre.
On a décidé de planter des arbres de auger. On a un demi-hectare avec une cinquantaine d'arbres qu'on va planter. Et puis on a des chevreuils qui passent tout près de la maison. Donc on espère voir ces petites bêtes un peu plus près de chez nous. Voilà.
Ça, c'est vous, en tant que premier magistrat, effectivement, oui. Qui va même donner une impulsion, parce que ça, vous l'avez depuis longtemps. C'est-à-dire qu'à une époque, on pouvait même carrément ne pas être élu parce qu'on parlait de biodiversité, oui. C'était un gros mot. Ça commence à être l'inverse. Hein.
Alors là, c'est l'inverse. Alors bon, mis à part le phénomène des dernières élections, oui. Vraiment, il y a une attente citoyenne. Il y a encore des gens qui souhaitent que tout soit entretenu au cordeau.
Et pas une mauvaise herbe dans le cimetière.
Voilà. Mmh. Mais on voit quand même que si on explique la démarche, tout de suite, il y a un changement. Et on me dit, ah bah oui, c'est vrai, on n'avait pas pensé à ça.
Eh ben moi, je vous le dis, des Frédéric Poncherey, des élus comme ça, il faut les cloner. On n'a pas fini donc le voyage parce qu'il va nous faire rencontrer père et fils, deux vignerons autour de ce Mont Brouilly. I don't care to be bad, I prefer to think twice. All I know is it's quite a show, but it's still alright to be nice. Yankee toes and Eskimos can turn to frozen ice when the cold. C'était Sir Paul McCartney. Vous êtes bien sur CO2 Mon Amour, sur France Inter, et avec deux collectivités donc qui œuvrent en faveur de la nature. Nous sommes toujours au sommet du Mont Brouilly et il y a une chapelle là-haut, Notre-Dame au Raisin, bon, qui est censée protéger des grêles de l'oïdium. et dégelée. Sur le fronton, il y a marqué à Marie, protectrice du Beaujolais. Alors disons-le tout de suite, elle a été un petit peu aux abonnés absents, hein, ou en RTT, je ne sais pas ces derniers jours là, avec le gel arctique, mais donc malheureusement, évidemment, ces vignerons aussi étaient énormément touchés. On peut penser à tous les agriculteurs qui ont été touchés en France. Nous sommes toujours avec Frédéric Ponchery, donc vice-président de la communauté de communes Beaujolais-Val-de-Saône, et il va nous présenter deux vignerons, Didier et Aymeric Vermorel.
Alors je vous présente Didier Vermorel et son fils qui sont viticulteurs à Fleury et qui se lancent dans, alors c'est déjà des gens engagés, hein, qui plantent des haies, qui font beaucoup de travail dans ce sens-là, nourrir la terre de façon naturelle, etc. Et en même temps, là ils se lancent dans l'agroforesterie, en viticulture. Et ce qu'il y a d'intéressant pour moi, c'est que c'est des coopérateurs. Généralement, c'est quand même plus des vignerons indépendants qui ont cette démarche-là parce qu'ils maîtrisent à 100%. Se lancer dans l'agroforesterie quand on est encore coopérateur, pour moi, c'est un défi supplémentaire.
Parce qu'il faut convaincre les autres.
Bah, il y a déjà tous ses collègues qui voient peut-être d'un œil un peu sceptique certaines démarches. Et puis, bah, c'est quand même du travail supplémentaire.
Alors, moi, mon projet, en fait, il va démarrer à l'automne, là. Mais actuellement, je suis sur les haies bocagères que j'ai plantées depuis 3 ans. Pour l'agroforesterie, donc l'idée, c'est notamment une parcelle qui est en contre-pente. On a prévu de faire des terrasses. Et entre chaque terrasse, on va mettre des haies bocagères et intégrer des arbres au jet au milieu. Quand on dit au jet, on maîtrise le jet à partir du moment où il est trop haut. À un moment donné, ça se taille, un arbre. Avec les résidus de bois, on peut faire des amendements pour la vigne. On peut broyer, on peut chauffer avec. Et puis avant que ça fasse une haie, avant que ça fasse des hauts jets, il faut quand même compter une dizaine d'années, un minimum. Mais le but, c'est de les intégrer au milieu. Alors effectivement, là, la réflexion que j'ai de mes collègues viticulteurs, c'est de dire « mais tu te rends compte, ça fait de l'ombre ». Enfin, on se rend compte aussi que depuis des années, on a des étés caniculaires. Alors après, en m'épaulant avec les associations qui existent aujourd'hui, à moi de peaufiner une haie avec suffisamment d'intelligence et puis de clairvoyance pour mettre les bonnes espèces et puis surtout les espacer correctement. Je pense pas qu'on va faire une forêt au milieu d'une vigne, mais les arbres, ça a toujours existé dans les vignes. Autrefois, quand j'étais gamin, on avait des pêchers de vignes, on avait des poiriers, on avait plein d'arbres fruitiers qui ont disparu avec l'arrivée des désherbants. Et puis on n'a rien replanté puisque ça allait trop bien en tracteur, c'était mécanique, ça nous ennuyait pas pour enlever le tracteur, etc. Et donc on n'a rien replanté.
Au bord de la mer, ces 3 hommes, ils te servent à rien. Ils sont juste au bord de ton pré. Alors qu'est-ce que ça peut te faire de les tailler? Après tout de même, quoi, tu ne vas pas m'obliger de couper les arbres qui sont chez moi. Ah oui, d'accord, les arbres sont chez toi. Mais leur ombre est sur mon jardin. Ce qui fait que toute l'année, et du matin au soir, cette ombre tombe sur mes légumes. Mes arbres, personne n'y touchera.
Donc aujourd'hui, moi, l'idée, c'est de ramener de la fraîcheur dans les vignes, quoi, bon an mal an, parce que la fraîcheur, et puis aussi cette fameuse vie microbienne qui existe grâce aux arbres, grâce aux relations entre les éléments vivants. Enfin, là, mon fils pourra plus vous en parler, mais c'est le lien qu'il y a entre l'arbre, entre les mycorhizes, on appelle les mycorhizes. Hein. C'est la vie microbienne, c'est la vie entre les plantes. Et c'est ce qui fait qu'on va peut-être arriver à rééquilibrer notre atmosphère.
La clé, on le sait, c'est l'humus et c'est le champignon. Quel âge vous avez ?
J'ai 23 ans.
Alors 23 ans, donc vous vous lancez vraiment là-dedans, ça vous allez faire évoluer donc, le travail, on va dire, de vos anciens. Et pour vous, ça va de soi, ça ?
Suite à mes études en viticulture, en œnologie, puis en environnement par la suite, j'ai trouvé ça totalement normal qu'on ait des sols couverts, donc c'est-à-dire enherbés, toute l'année, qu'on soit adapté en fonction de la culture. Parce qu'on a beaucoup trop de monoculture et donc les sols nus, c'est des sols qui prennent beaucoup trop le climat violent, donc le soleil l'été, maintenant même presque le printemps, qui dégrade à peu près toute la matière organique, donc plus de champignons comme vous le dites, beaucoup plus de bactéries qui dégradent beaucoup plus la matière organique, donc des sols qui s'appauvrissent et qui se dégradent. Et là l'objectif avec l'agroécologie du départ, donc en couverture des sols, ramener des haies en bordure, rogner moins souvent la vigne, intégrer de la polyculture, c'est déjà de ramener de la fraîcheur, de l'humidité, à un moment où on en a moins, et puis produire de façon cohérente, avec des rendements normaux, parce que baisser le rendement, alors en viticulture, c'est pas essentiel, mais en grande culture, si demain on n'arrive pas à nourrir la planète, ça sera quand même un drame. Et donc il faut trouver une solution qui puisse allier environnement, futur, nourrir la planète. Là, suite à mes études, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de méthodes qu'on inventait, mais qu'à la fin, la conséquence était la même, c'est qu'on produisait moins et qu'on aggravait toujours nos sols. Et on se rend pas compte de toutes les symbioses qu'il peut y avoir entre les arbres, les vignes, les autres cultures, les engrais verts, donc qui sauvaient des variétés multiples, je pense aux légumineuses, aux crucifères.
Ah oui, la moutarde, etc.
La moutarde et compagnie. C'est parce qu'on pense qu'on peut allier efficacité et production. Et qu'on peut aggrader nos sols. C'est un terme qui n'est pas souvent utilisé, mais le contraire de dégrader, c'est aggrader. Et donc les améliorer. En Beaujolais, on a des sols avec des matières organiques qui vont de 0,5, notamment sur Fleury, à 2%. Et on apprend à l'école, et je pense que c'est véridique, pour un sol apte en viticulture, c'est 2%. Donc imaginez qu'on n'a pas beaucoup dans le coin.
Vous faites partie de ces jeunes qui sont redevenus agronomes. C'est-à-dire que pendant une cinquantaine d'années, donc on avait transformé donc les gens qui travaillaient le sol en parfaits petits chimistes. Et vous, maintenant, vous travaillez véritablement. Alors, il faut avoir l'œil quand même en permanence, quoi.
Je ne considère pas le sol comme un support, comme je pouvais le considérer il y a 5 ans, quand j'étais en début de formation dans la viticulture. Il y a encore 5 ans, on m'apprenait que le sol, c'était un support. Un support, même si on touchait un petit peu au fait que c'était agronomique et que ça pouvait apporter quelque chose. Maintenant, on s'en rend compte que c'est plus qu'un support, c'est même le 60-80% du résultat final.
Il ne reste pas beaucoup de temps avant qu'on démarre les vendanges.
Ça commence quand ?
Ben, on est censé décider ça ce matin.
Goûte côté soleil. Pour moi, c'est jeudi, ça.
Dans 4 jours ?
Dans 4 jours, hein. Si tu commences dans 8 jours, tu risques d'arriver en retard pour les rouges. Ils coûtent bien, là, déjà, non ?
Ah, mais les peaux, elles sont super épaisses.
Et ?
Bah, si c'était bon, elles seraient plus fines, non ? Le jus, il viendrait plus facilement. Franchement, j'attendrai à 4 jours près, on aura plus de chair.
Bah oui, parce que toi, en fait, tu veux faire du vin plus facile, non ?
Une fois de plus, ça part du territoire. Et oui. On sait que les solutions partent vraiment du territoire.
Oh bah alors, Denis, s'il y a quelqu'un qui est prêt à convaincre, c'est bien moi. Moi, je n'attends pas grand-chose de l'État, si ce n'est le soutien à travers des appels à projets. Les appels à projets, c'est très intéressant parce qu'on inverse ce qui se faisait avant, où c'était le sénateur, le député qui distribuait un petit peu ses enveloppes.
C'était un peu ça.
C'était ça. Il reste quelques
féodalités locales.
Tout à fait. Et donc, en fonction des affinités, eh bien, on avait beaucoup d'argent, ou pas. Là, ce que je trouve intéressant dans l'État, maintenant, c'est qu'ils font des appels à projets. Donc, une collectivité qui se respecte, qui a envie d'avancer avec son territoire, elle répond aux appels à projets. Et là, c'est une vraie opportunité. Par contre, tout doit venir des territoires. Ouais. Les grands plans doivent venir de l'État, avec une dynamique forte. Et puis après, c'est au territoire de se saisir, parce que chaque territoire a ses particularités, chaque territoire a ses hommes qui sont complètement différents aussi. Et donc, il faut que ce soit les territoires qui bougent.
Émeric, comment vous projetez avec, on va dire, tout le sac à dos qu'on est en train de vous laisser ?
C'est un grand défi qui nous attend, parce qu'on vit quand même de la nature et en même temps, des fois, on l'aide pas. Et donc, il va falloir qu'on rentre, je dirais, en collaboration avec elle. Le Beaujolais, c'est 15, 16 000 hectares de vignes. On ne sait pas ce qui adviendra demain au niveau économique, donc ça va peut-être s'agrandir ou encore se rétrécir. On a déjà connu une grosse crise économique. Je pense que le créneau de l'environnement, au-delà de l'économie, c'est qu'il semble logique et le mot d'ordre, je pense, c'est le bon sens paysan. Ouais.
Vous êtes fier, Didier, de votre gamin, là ?
Ah, mais carrément. Non, mais c'est pour ça. Non, mais moi, il m'a bougé. J'étais dans un espèce de confort tant que le monde viticole allait bien. Et puis, on s'est remis en cause, comme vous disiez. Hein, quand il y a une crise, on s'est remis en cause.
Quand on se prend un mur, de toute façon,
on se prend un mur, à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait ? On le contourne, on essaye de monter dessus, on l'écroule. Alors, quand on est tout seul, c'est compliqué. Mais quand votre fils arrive et puis qu'il vous dit « Papa, tu sais que tu peux être un précurseur ?» Alors ça vous motive un petit peu, ça, puis vous dites oui mais comment ? Et je reconnais que de par ses compétences, et puis après avec le soutien du CCSB, je trouve la communauté de communes, l'avantage c'est que on ne se sent pas seul devant un projet. Et là j'ai ce projet d'agroforesterie, si j'ai contacté Frédéric il n'y a pas très longtemps, et qui me dit mais bien sûr que c'est un projet qui nous intéresse, tu sais que par rapport à ça, moi je suis hyper motivé. Donc là ça vous donne un deuxième coup de boost et vous dites mais ce projet on va foncer, et je pense qu'il va être même plus important que ce que je pensais faire à la base.
Qu'est-ce qui vous motive, vous, Frédéric Poncherie, profondément ?
Alors moi, ce qui me motive, c'est ma famille, c'est mes filles, c'est me regarder dans la glace en me disant le matin, alors je me regarde dans la glace juste pour être à peu près présentant par rapport aux autres, mais c'est de se dire, voilà, j'ai quand même amené ma pierre. Le but, c'est pas de se mettre en avant, c'est pas de dire on a fait les meilleurs exemples, tant mieux s'ils peuvent être dupliqués, si sur nos territoires, ça peut donner l'idée à d'autres. Eh bien, qu'il continue. Moi, je consacre beaucoup de temps à aller porter la bonne parole, à convaincre des gens. Donc, ce qu'il faut, bah, c'est qu'on ait l'impression qu'on a agi dans son coin. Alors, des fois, on nous dit, oui, mais c'est trop tard. Mais si c'est trop tard, alors à ce compte-là, ça sert plus à rien. On lâche tout. Ou je finis dans une grotte avec Denis et son fils, Didier et son fils. Ou on se dit, bah, on se bat quand même. Il y a quand même de l'espoir. C'est une belle planète. Et agissons.
«
à la fois une collectivité, un homme aussi donc à la tête, et puis aussi donc l'Agence de l'eau, il faut quand même le souligner, donc Rhône Méditerranée Corse, qui apporte évidemment tout son soutien à ce type de projet. Et alors ça fait des petits, parce que ce marathon de la biodiversité, maintenant bah, vous avez une douzaine de collectivités qui s'en sont emparées, et qui donc agissent aussi sur le terrain. Voilà, dans quelques instants, ce sera une deuxième action, la création d'un atlas de la biodiversité communale à Embrun. Mais avant, moi, je vous propose, oh bah oui, de chevaucher le petit vélo, vous savez qu'on a tous dans la tête là.
Un petit vélo rouillé dans un grincement minable tourne sur mon oreiller une ronde interminable. Il va le guidon tordu, brinque-balle et revoilé, indifférent et têtu, sur le point de dérailler. Petite reine abîmée par ses courses sans victoire, qui laisse mon âme tachée du cambouis des idées noires. Ainsi vont mes nuits sans toi, à le regarder tourner, en comptant du bout des doigts ces tours de piste obstinées. N'en finit pas de rallier la raison au cauchemar. Il va en suivant sa route, sans pilote ni passager. Ce n'est rien qu'un petit doute dont les freins auraient lâché. Et sur la piste ensablée des bas-fonds de ma mémoire, il fait intinabuler la sonnette des cinémas noirs. Ainsi vont mes nuits sans toi, à le regarder tourner, en comptant du bout des doigts cette tour de piste obstinée.
653e tour, l'amour est dépassé par la jalousie mortelle.
Un petit vélo rouillé dans un grincement sordide prend un chemin embrouillé, pédale dans le vide. Il va roulant sur la jante, de plus en plus déglingué, traçant d'une roue méchante cercle vicieux et vicié. Pour ne pas le voir zigzaguer, je crains qu'il ne soit trop tard. J'ai sur mes deux yeux crevé la rustine des idées noires. Ainsi vont mes nuits sans toi, à le regarder tourner, en comptant du bout des doigts ces tours de piste obstinée.
Premier tour bouclé pour le phénix du Vélodrome, qui nous revient ce soir en très grande forme.
Reconnaissable immédiatement, c'était Juliette, le petit vélo rouillé.
Je suis sur un coup là.
Aïe, 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 aïe.
Une forêt. La forêt, c'est là qu'il faut investir.
Et qu'est-ce que tu comptes en faire de cette forêt ?
Du bois à brûler. Ah. Y a pas que les éoliennes. Le bois, c'est de l'énergie, c'est bio, ça pollue pas. Puis c'est encore abordable, mais pas pour longtemps. Hein. Ça va grimper, je te le dis. D'ailleurs, ça grimpe déjà.
Va te chercher ta brosse à dents.
CO2, mon amour, Denis Chessoux. Sur France Inter.
Des collectivités qui bougent. Deuxième action, celle de la commune d'Embrun, entre Gap et Briançon, dans les Hautes-Alpes. Alors, idéalement située, hein, avec un soleil, mais qui fait le boulot 300 jours par an. L'Atlas communal de la biodiversité, initiative du ministère de l'Environnement, c'était en 2010, avec le soutien aujourd'hui de l'Office français de la biodiversité. Puis vous avez des partenaires, comme localement, donc le Parc national des Écrins. Chantal Emehoud. Chantal Emehoud est à la tête de cette commune de 6500 habitants, c'est 4 fois plus hein, pratiquement en été, et engagé en faveur de la nature. Il s'agit de faire prendre conscience en fait, de la richesse d'un territoire, hein, de cette ville qui est posée comme ça superbement sur son roc. On est entre 780 mètres et plus de 2800 mètres au pied de la Durance, hein, d'altitude, et la naissance du lac de Serre-Ponçon. Alors, ça veut dire qu'il y a une végétation à forte amplitude, ça va du cincle plongeur, de la truite fario à l'aigle royal au lagopède. Et Christian Couloumi, notre monsieur Montagne, notre monsieur Rapace, président de Envergure Alpine, belle association, s'est beaucoup investi dans la réalisation de cet atlas de la biodiversité communale et il nous en livre l'état d'esprit.
On a fait des inventaires, on a pris ceux du Parc National des Écrins, puisqu'on est devant le Parc National des Écrins ici, de façon à avoir une liste qui n'est évidemment pas exhaustive, parce qu'on n'a pas tout vu, et il reste des choses peut-être à découvrir, de façon à avoir le nombre d'oiseaux, des espèces d'oiseaux, d'insectes, de poissons, de mammifères, qui vivent ici.
Et nous avons donc aussi tous ces différents étages, parce que donc on peut arriver presque jusqu'à l'étage nival, comme on dit, mais donc on a l'étage montagnard, on a l'étage alpin qui vous est extrêmement cher, tout ceci sur la même commune.
Sur la même commune, c'est une particularité de certaines communes de montagne, de la plupart d'ailleurs, mais particulièrement ici à Embrun, je dirais, parce que il y a ce petit vent là qui est en train de nous rafraîchir, puisqu'il fait chaud, et ce petit vent, c'est le souffle de la Provence qui vient jusqu'ici. Et au-dessus de nous, si on regarde bien, les crêtes, eh ben, on est au mois d'août et il y a encore de la neige. Donc on est dans la même situation qu'actuellement au Cap Nord. Donc on retrouve en modèle réduit toute la diversité qu'il peut y avoir entre le Cap Nord, à 3500 km d'ici, et puis la côte méditerranéenne, qui est à 200 km de nous.
Et c'est cela que vous avez envie de faire découvrir donc après à la population, aux élus, aux décideurs, pour qu'ils s'en emparent. Parce que cette notion de biodiversité, elle ne va pas de soi. Les gens, ce sont globalement des aménageurs. Bon, mais ça doit être une aide à la décision aussi, cet atlas ?
Je dirais que c'est d'abord pour que les citoyens soient fiers de leur commune. Avec 900 espèces de plantes, plus de 200 espèces d'oiseaux, près de 1000 espèces d'insectes, déterminé. Il en reste plein à découvrir. Avec l'atlas de la biodiversité, on met une espèce de loupe sur regarder où vous habitez, regardez comme c'est bien, regardez comme il y a beaucoup de choses. C'est le premier but. Et le deuxième but, c'est quand il y a cette prise de conscience de l'ensemble de la population, c'est que nous, puisque je suis un élu ici, mettions en œuvre des actions ou des précautions pour préserver cette biodiversité dont on bénéficie.
Moi, je vais me tourner vers deux petites habitantes, c'est-à-dire Luna et Mila. Et alors, qu'est-ce que l'on rencontre, qu'est-ce que l'on voit ici comme espèce que tu connais ?
Des renards, des oiseaux, des aigles, des moineaux, des chauves-souris, des araignées, des reptiles, on peut voir aussi, et le tétralibre.
C'est un tétra, en fait, qui aime la lecture, le tétralibre. C'est ça qui est joli tout plein. Maintenant, Mila, c'est à toi.
Des chamois, ouais. Des bouquetins, des hermines, des lièvres variables.
Alors, lièvre variable, rappelle-nous ce que c'est.
C'est un lièvre qui change de couleur l'été, qui est plutôt marron, pour se protéger
des prédateurs.
Oui, des prédateurs. Et en hiver, il est blanc.
Pour aussi passer inaperçu dans la neige, quoi.
Oui, c'est ça.
Question Colomy, on va prendre un exemple avec des oiseaux que nous aimons beaucoup, ce sont les martinets. Alors les martinets, ce sont les oiseaux des 100 jours, hein, parce qu'il ne reste qu'une centaine de jours donc ici. Mais quand ils restent chez vous, à Embrun et ailleurs, bah, c'est quand même pour se reproduire.
C'est exactement ça, Denis, vous avez très bien défini, ils sont tout le temps en l'air, sauf là. Et pour se reproduire, ils utilisent les bâtiments dans les villes, et à ce moment-là, ils vont trouver des cavités, des petits trous, des anfractuosités dans lesquelles ils vont installer leur nid et élever leurs jeunes. Et ces cavités-là, lorsque l'on refait l'isolation des maisons, on refait les façades, eh ben, le risque, c'est d'obturer ces cavités.
Pour éviter les ponts thermiques.
Pour éviter les ponts thermiques, et puis parce que quand on met un panneau sur un mur, eh ben, on couvre tout, quoi, on ne s'embête pas.
Alors qu'est-ce que l'on fait ? Est-ce que c'est une idée que vous avez piochée du côté de Toulon, là ?
C'est une idée qu'on a piochée auprès de la LPO, de la Ligue pour la protection des oiseaux, qui a très bien marché et qui marche, je crois, à Toulon actuellement, c'est de mettre en place des nichoirs dans lesquels les martinets vont pouvoir se reproduire dans des très bonnes conditions. Ouais. Et ça, on va essayer de le faire ici, et c'est quelque chose de possible. Et on va assujettir à un programme de réfection de façade que nous finançons avec la commune l'obligation de prendre en compte les martinets. Donc on a fait un inventaire des martinets, avec les gens de la LPO toujours, de façon à dire là il faut faire attention, prévenir les propriétaires de la fragilité des lieux qu'ils occupent.
Un autre exemple que l'on retrouve dans cet atlas de la biodiversité d'Embrun, bah, l'éclairage, ça c'est un grand classique, entre on a envie d'éclairer ce que l'on aime, c'est-à-dire ces monuments principalement, et puis quand même la réalité de la biodiversité.
Alors effectivement, c'est ce qu'on peut appeler le droit à la nuit, pour nous, pour qui regardons le ciel par exemple, et les étoiles, mais aussi pour les animaux qui vivent la nuit, qui ont besoin d'obscurité. Et puis il y a un autre intérêt à modérer l'éclairage nocturne, simplement ne pas l'éclairer, c'est les économies d'énergie. Donc il y a là aussi une intention que l'on va essayer de mettre en place, de réduire l'intensité de l'éclairage avec les nouveaux matériaux, comme les diodes par exemple, qui consomment beaucoup moins et qu'on peut gérer facilement. Bon, c'est du travail, mais on peut le faire.
Et puis ici, non, mais là, on a carrément d'éviter d'éclairer le roc en pleine nuit.
C'est exactement ce que la commune a décidé il y a quelques années, c'est d'abandonner l'éclairage d'un site naturel, qui est cette falaise verticale sur laquelle est juchée la ville d'Embrun et dans laquelle vivent un certain nombre d'espèces sauvages. On est entre la ville ici, Embrun, la plaine en bas qui est une plaine agricole et le sauvage réel puisque c'est vertical, personne d'autre n'y va. Donc préserver ça, c'est ce qu'on fait.
Quelle est la place de la biodiversité dans les documents d'urbanisme? Parce que c'est là que ça se passe.
Il faut qu'il y ait des cailloux dans la chaussure. Il faut un caillou dans la chaussure. Bon, moi, j'essaie de le faire sur la commune d'Embrun. C'est pas trop compliqué parce que la commune suit. Mais il faut quand même qu'il y ait une préoccupation environnementale associée à la biodiversité un peu partout en France, qu'il y ait des gens comme le font les associations ou des élus qui ont cette sensibilité et qui rappellent à chaque fois que quelque chose est prévu, hey, les gars, vous avez pensé aux papillons, vous avez pensé aux chauves-souris. Et là, ben, on va carrément mettre en place des hôtels à insectes. C'est des petites choses qui ont été développées par le monde naturaliste, les entomologistes depuis longtemps. Et ben, on va le faire. On va pas sans doute inventer grand-chose, mais on va le faire.
Mais lorsque vous avez des gens qui vous disent « Oui, t'es gentil, mais enfin, nous, c'est économie et emploi. »
Est-ce que c'est vraiment tant opposé que ça?
Nous, on sait que non.
On a eu le confinement, là, qui a permis de mettre en pause pendant quelques temps, qui a permis à la nature, d'ailleurs, de revenir un petit peu, d'étendre ses ailes sur les villes, sur les villages, et de nous rappeler qu'elle était là, et que, finalement, on l'aimait bien. On est là avec mes petites filles, Lohan et Mila, et c'est vrai que, pour elles et pour tous les enfants du monde, préserver ce qu'on voit aujourd'hui, ils aient la chance de voir ce qu'on voit aujourd'hui, eh ben c'est un devoir absolu.
La biodiversité, une chance pour Embrun, ça c'est l'atlas de la biodiversité communale que j'ai sous les yeux, donc est très bien fait. Alors sur le site de CO2 Mon Amour, vous avez le site d'Embrun, du Parc National des Écrins, et aussi, si vous aimez les rapaces, aussi d'envergure alpine. Donc merci à Christian Couloumi. Mais ça sent la fin, donc on va se quitter. Mais remercions Nicolas Delmas à la technique, Camille Blanès et Thomas Lehété et Xavier Pestugia qui a colorié et réalisé cette émission. Je n'oublierai pas Thierry Dupin pour la programmation musicale, Anne Gouzon qui nourrit les sites de CO2 Mon Amour. Et la semaine prochaine, ce sera notre ronde de printemps assez rituelle. Je vous emmènerai en Corrèze, en Bretagne, dans la Somme, dans le Rhône, du côté de Belle-Île. Bref, on va encore respirer. Le Twitter, Denis Chessou. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de dimanche.